Chapitre 21.
Sudoro ne parlait jamais de sa mère, ni de la mienne. Nous avions en commun le fait d'avoir perdu en bas âge ce qui définit les fondations d'une vie. L'odeur de ma mère, c'était celle de Natalia. Je la trouvais belle, même si elle avait un visage disgracieux, comme écrasé, recouvert d'une longue barbe. Elle la rasait régulièrement pour qu'elle repousse épaisse et drue. Elle l'entretenait comme un jardinier les arbres de son jardin. Sans cet attribut, elle savait que Sudoro l'aurait répudiée. Natalia sentait le printemps, le lilas. Aujourd'hui encore, à chaque fois que je respire cette fleur, elle m'évoque sa présence. Elle m'a aimée comme on aime son enfant. Elle a soigné mes bobos, m'a cajolée, réchauffée dans ses bras potelés. Petite, j'étais toujours assise sur ses genoux. J'avais 13 ans quand Sudoro l'a jetée sur le bord d'une route. Un coup en douce, de nuit, comme d'habitude. À mon réveil, je n'ai pas prêté attention à son absence. Ce jour-là, nous avons roulé jusqu'au soir. À l'heure du coucher, elle venait toujours m'embrasser. J'ai demandé à Sudoro pourquoi la caravane de Natalia n'était pas allumée. Elle est malade comme un vieux chien, fous-lui la paix, elle pionce. J'ai mis 2 jours à m'apercevoir qu'elle avait disparu et que sa caravane avait été vidée. Au début, Sudoro m'a annoncé qu'elle s'était barrée. Je ne l'ai pas cru. Jamais elle ne serait partie sans moi. Sudoro m'a rionné. Évidemment qu'elle est partie sans toi. Elle a trouvé un Jules. J'ai grandi persuadée que personne ne voulait de moi, de ne pas mériter d'affection. 11 ans après, l'année où Sudoro a vendu le cirque, Fabrizio m'a avoué qu'il s'était débarrassé de Natalia, mais qu'il ignorait où et comment. Quand je lui ai demandé pourquoi il ne m'avait pas prévenu avant, il a répondu avoir eu trop peur des représailles. Qu'était-elle devenue? Qu'avait-elle vécu loin de nous? Moquée, humiliée, sans aucun doute. J'ai été soulagée d'apprendre qu'elle ne m'avait pas quittée par choix. Pas comme ma mère, qui était morte après m'avoir abandonnée, comme une punition divine. Quant à Sudoro, il était dur parce qu'il avait profondément souffert, enfant. Il paraît que les enfants maltraités prennent presque toujours la défense de leurs parents. Le temps a passé. On a beaucoup parlé de l'an 2000. Et puis, le 31 décembre 1999 est arrivé. Je me suis réveillée ce matin-là, Lancelot endormi contre moi, en me disant qu'on allait quitter le siècle. Comment serait le prochain? Combien de temps vivrai-je encore ainsi?
Un très long silence. J'entends quelqu'un lui souffler des paroles inaudibles. Colette est près d'elle.
Je travaillais au cabaret des oiseaux depuis 30 ans. Je n'avais pas de salaire, pas de sécurité sociale. Officiellement, je n'existais pas. J'étais sous tutelle comme un enfant. Or, en 1999, j'avais 53 ans. 53 ans! Tout le monde me disait « Tu ne fais pas ton âge. Tu ressembles à une jeune fille. » Oui, une vieille jeune fille. Sudoro était parti précipitamment le 30 décembre et il était rentré dans la nuit, sans emmener Lancelot. Il venait d'apprendre quelque chose, mais quoi? J'ignorais tout de ces trafics. J'ai préparé le petit déjeuner, puis je suis sortie avec le chien. En rentrant, je suis tombée nez à nez avec lui. Il avait une griffure sur le visage, je n'y ai pas prêté attention. J'ai fait un peu de ménage, et c'est là que je les ai trouvés. Son pantalon et son pull-over tachés de sang dans le tambour de la machine à laver. Je me suis demandé qui il avait tué. Je me suis vraiment demandé ça. Et j'ai ressorti le pull pour le laver à la main, avant d'être saisie d'une drôle d'impression. Une intuition. Je l'ai enfoui dans un sac en plastique sans le laver, j'ai lancé la machine, puis étendu le linge. Fin de l'histoire. Le soir du réveillon est arrivé. Le cabaret était complet. Nous proposions un menu exceptionnel, un spectacle avec nos artistes habituels et des acrobates sur corde. C'était la 3e génération d'artistes que je côtoyais. Que de la jeunesse autour de moi. J'adorais mon travail. Je m'y sentais à ma place. C'était une parenthèse lumineuse dans mon quotidien. Et j'aimais travailler le soir. Cette nuit-là, J'ai gagné 1500 francs de pourboire que j'ai planqué au fond du sac de croquettes de Lancelot. Le lendemain, je me suis levée tard. Soudoro était sorti faire un tour. J'ai allumé la télévision et je suis tombée sur le journal télévisé régional Rhône-Alpes. Un reportage festif sur le réveillon avec des feux d'artifice et des passants qui s'embrassaient. Quelques jours avant, une tempête avait décimé des hectares de forêt en France. Les images de joie et de désolation se succédaient. Mais le fameux bug de l'an 2000 était mort dans l'œuf. C'est à la fin du journal que l'information est tombée. Une femme avait été retrouvée à son domicile dans un état grave. Elle avait été frappée et avait reçu plusieurs coups de couteau. Son pronostic vital était engagé. Elle était originaire de Flumet et fuyait son mari depuis des décennies. Il avait fini par la retrouver. L'agression avait eu lieu dans la région d'Annecy. L'individu était recherché. Pronostic vital engagé. Ces trois mots ont tourné dans ma tête. Et aussi Flumet, le village où était née ma mère. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Non, ça ne pouvait pas en être une parce que j'ai toujours su que Soutkovski était capable de tuer les femmes qui le quittaient. J'avais en ma possession le pull de l'assassin taché de sang et ce sang appartenait sans doute à ma mère. Je savais qu'elle s'appelait Marie Roman. Je me suis mise à trembler comme jamais je n'ai tremblé. Ma mère n'était pas morte. Elle s'était sauvée. Et il avait fini par la massacrer. Les semaines suivantes, depuis le cabaret, j'ai téléphoné aux hôpitaux d'Annecy. J'ai fini par trouver le service où la patiente Marie Roman était dans le coma. J'ai décliné mon identité. Je suis Blanche Soutkovski, la fille de Marie Roman. Et je me souviens encore de la surprise de l'infirmière. J'ignorais qu'elle avait une fille. Je n'ai pas répondu. J'ignorais que j'avais une mère. Je ne m'étais pas trompée. Ce sang était le sien. Donc, le mien. 4 mois ont passé. On l'a transférée ailleurs pour sa sécurité. Il fallait que je me présente à la police. Une enquête était en cours et je voulais savoir où elle se trouvait. J'ai failli demander à Soudoro comment ma mère était morte, mais il était tellement malin qu'il aurait compris que je savais quelque chose. 4 mois ont passé sans que je modifie mes habitudes, alors que je savais que j'allais m'enfuir. Chaque matin, je le regardais boire son café en me répétant que cet homme était un meurtrier. Et puis un jour d'avril, le 7 exactement, au Journal National, pendant que je préparais à manger, j'ai entendu Benoît Duquesne évoquer un pot de terre contre un pot de fer. Une petite équipe de football allait affronter la plus grande. Guignon allait rencontrer le PSG au Stade de France. Guignon ! J'ai pris ça comme un signe du destin. Le ciel me tendait la main. Colette. Colette Septembre. Le match aurait lieu le 22 avril. J'avais 15 jours pour préparer mon départ. Et je n'ai surtout rien préparé. Le 22 avril, j'ai enfoui à la va-vite une robe, un pantalon, le pull ensanglanté, mes pourboires et ma vieille pièce d'identité dans un sac poubelle. J'ai enfilé mon manteau et je suis descendue promener Lancelot, un sac poubelle de plus à la main. J'ai tout laissé en place dans ma chambre. Absorbée par la lecture de son pari turf dans la cuisine, Soudoro n'a rien remarqué d'inhabituel. Je l'ai quitté sans dire un mot. Je savais que je ne le reverrais plus. Du moins, je l'espérais. Parce que je signais mon arrêt de mort en partant. J'ai pris beaucoup de risques. J'étais convaincue que Colette serait au Stade de France. Si elle n'y était pas, j'étais fichue. Mais mieux valait prendre ce risque pour m'en sortir que de retourner auprès d'un assassin qui me tiendrait en joue jusqu'à sa mort. Aussi fou que ça puisse paraître, j'ai beaucoup pleuré en partant. La peur du vide, celle de quitter son bourreau est vertigineuse. J'ai grandi dans son regard, son odeur, sa voix, une vie entière passée avec lui. Tant que tu te tiens à carreau, tu ne risques rien. Tu respires presque normalement. Cet homme ne m'a jamais battue. La menace et la peur étaient sous-entendues. Mais à partir du moment où tu désobéis, tu ne connaîtras plus la paix. Je n'oublierai jamais les étages à descendre, alors que je les dévalais chaque jour, ni les rues pour rejoindre la gare, le temps, le ciel, les gens. À Lyon-Pardieu, je suis montée dans un train pour Paris. En arrivant, j'avais appris par cœur le trajet en RER D, direction Creil. À 21h, j'étais devant le stade. Le match avait déjà commencé. J'ai attendu sous la pluie, mon chien dans les bras. Un monsieur m'a demandé si j'avais besoin d'aide. J'ai dit « J'attends quelqu'un ». Il m'a répondu « Le match vient de commencer ». Je me souviens avoir acheté un hot-dog à Lancelot. Je me souviens des cris des supporters. Je n'ai rien vu du match, mais je l'ai entendu. Jamais je n'oublierai leur acclamation quand, moi, j'attendais Colette. Le stade était immense, les issues nombreuses. J'ai fait confiance à la vie. Pour une fois, elle allait être gentille avec moi puisque l'équipe de Colette était dans ce lieu. Et j'ai souvent regretté ce choix. Parce qu'en te retrouvant, Colette, je te rendais complice. En te retrouvant, je t'ai imposé la terreur, ma terreur. Je t'ai contaminé de la pire des maladies, vivre sous la menace de Soutkovski.
Anna et moi venons d'écouter Blanche d'un trait, comme nous aurions avalé un breuvage cul sec, à peine si nous respirions. Fin de la cassette. Le silence. Je jette un coup d'œil à ma montre. 23h. Et après, tu sais ce qu'elles ont fait, maman ? Me questionne Anna, surexcitée par les enregistrements. Je dois remplir les blancs, répondre à ses questions. Je crois que Colette a disparu quelques jours avant de réapparaître à la cordonnerie. J'ignore où elles sont allées après ce fameux match. Nous nous faisons réchauffer des lasagnes et les mangeons à même le plat pour retrouver le magnétophone et les cassettes le plus vite possible. Pas le temps de nous mettre à table. Après avoir avalé 3 fourchettes, Anna pioche une nouvelle cassette parmi les 10 qu'il nous reste à découvrir et la glisse dans le magnétophone. Depuis notre retour, nous les annotons avec des post-it, en indiquant qui parle et ce qui est évoqué. Les prénoms, les noms, les années. Anna est curieuse et passionnée. Nous avons tout le week-end pour terminer. La voix de Colette nous permet de recoller les morceaux de sa vie, mais aussi de celle des autres, dont les nôtres.